Donc, je m'appelle Aurore Galvez Orjol et effectivement, j'ai une entreprise qui s'appelle Léonode. On fait du conseil, de la formation et du développement en technologie blockchain. Mais plus particulièrement, en fait, on s'est concentré sur une activité qui nous tient à cœur, c'est l'achat-vente de Bitcoin. On est devenu broker enregistré auprès de l'AMF. Donc, on est prestataire de services sur actifs numériques. Et effectivement, quand on commence à toucher aux technologies blockchain et plus particulièrement aux tokens et aux coins, effectivement, on a une obligation quand même hein, de se réguler. Donc ça sera plutôt la partie de Mathieu, je vais le laisser. Hein. Mais aujourd'hui, nous, on va justement approfondir le sujet blockchain, usage entre mythes et réalité, puisque comme vous l'avez justement rappelé, il y a eu plusieurs expériences et puis vous en avez eu le détail ici à travers des présentations. Et alors, justement, par rapport à toutes les expériences qui ont été faites, on voit que la technologie blockchain, elle est peu mature. Et en fait, il y a un usage sur lequel on est à peu près sûr que ça fonctionne, c'est l'usage monétaire. Il faut se rappeler que la blockchain, finalement, ça permet d'avoir une logique transactionnelle. C'est vraiment l'usage principal. Alors, la première fois qu'on a vu une blockchain, c'était Bitcoin. Bitcoin, c'est la première blockchain. C'est la première fois qu'on nomme cette technologie. C'est dans le protocole qu'a rédigé Satoshi Nakamoto. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la première partie, ça va être d'approfondir ce protocole pour bien en comprendre les rouages. Je vous ai mis ici sur la présentation, vous aurez le lien du livre blanc de Satoshi Nakamoto, qui est très important. En fait, il y a 8 pages vraiment qui sont savamment écrites et qu'il faut approfondir. Si on veut innover sur la technologie blockchain, c'est la première étape à mon sens. Donc, la blockchain, elle remporte la mise, hein, mais en fait, c'est assez faussement, c'est un lobbying qui a été mis en place parce que Bitcoin, ça faisait peur aux institutions bancaires et financières qui voulaient d'abord maîtriser le sujet avant d'en parler et donc finalement a mis en place un tabou sur Bitcoin pour pouvoir mieux parler de blockchain. C'est ce qu'on peut voir notamment chez JP Morgan qui fait des sorties dans la presse en disant que Bitcoin est un scam, ça n'ira pas bien loin, que ça ne survivra pas, alors que finalement il investit plusieurs milliards sur Bitcoin et sur la création de son propre coin. Mais c'est vrai que dans les comités de direction, ce sont les premiers à favoriser le terme de blockchain plutôt que de Bitcoin. Donc voilà, c'est pour la petite histoire, on est en 2016 et ça continue encore aujourd'hui, mais comme on le verra, il y a beaucoup d'institutions financières qui se sont lancées sur le marché. Bitcoin, en fait, pourquoi c'est un peu tabou? Parce que ça questionne très profondément nos sociétés. Et la blockchain qui va derrière aussi, hein, la logique transactionnelle, elle va questionner nos échanges. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour justifier l'usage d'une blockchain, en fait, il faut qu'il y ait plusieurs parties qui soient d'accord pour échanger l'information, pour décentraliser cette information tout en restant au même niveau. Alors, justement, sur les marchés économiques où on est concurrent, on n'est pas encore prêt à décentraliser et à rentrer dans cette logique de coopétition. De compétition, coopération. Donc, Bitcoin et la logique transactionnelle, c'est une innovation de rupture qui vient changer la conception de la monnaie. C'est une nouvelle échelle de temps, puisque c'est un moyen d'échange international, borderless, et on a créé une nouvelle échelle de temps, c'est le temps de bloc. Donc, dans Bitcoin, c'est 10 minutes, un bloc toutes les 10 minutes, c'est ça le temps de bloc. Et puis, c'est vrai que ça questionne la notion d'argent, qui est un très puissant structurant dans nos vies et dans nos économies. Bien souvent, on vient critiquer Bitcoin en disant, mais en fait, ça vaut rien, quelle est sa valeur sous-jacente? Finalement, ce n'est pas stable, il y a beaucoup de volatilité. Voilà, mais finalement, ça réinterroge aussi notre propre monnaie, l'euro. Quelle est sa valeur sous-jacente? Parce qu'en fait, on n'a pas en quantité, en réserve, l'or voilà, qui viendrait backer cette monnaie. Voilà, on fait confiance en fait dans la valeur de notre monnaie qui est aussi encadrée par peut-être le patrimoine que la France possède d'une, mais aussi par la sécurité instaurée par le pouvoir en place et l'organisation militaire. Si on n'avait pas cette sécurité, peut-être que l'euro ne vaudrait pas la même chose aujourd'hui et on est quand même dans un contexte, je le rappelle, d'inflation. Donc ça vient vraiment réinterroger tout ça. Comprendre, c'est un peu dépasser justement ces préjugés-là parce que Bitcoin, au-delà de l'aspect monétaire, il y a un aspect technologique très fort, et notamment sur qui prend les décisions. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à trouver des cas d'usage blockchain dans les entreprises, hein, parce que décentraliser la prise de décision, comme je disais, c'est pas à l'ordre du jour, chez les entreprises. Alors malgré tout, on est quand même soutenu en France, par le gouvernement, même si la régulation, elle est venue assez rapidement, parce qu'elle est venue 2018-2019 par rapport à d'autres pays d'Europe qui ne se sont pas positionnés. On est les deuxièmes après Malte. Bon, après, Malte, c'est beaucoup plus facile chez eux de réguler, c'est tout petit, ils se mettent autour d'une table et ils prennent des décisions rapidement. Mais c'est vrai que la France nous offre un cadre législatif très intéressant pour que les acteurs puissent se positionner, même s'il est très, très strict. On rappelle quelques sorties sur Twitter de Bruno Le Maire qui a dit qu'il ne manquerait pas la révolution blockchain, qu'il ferait de la France la crypto-nation. Bon. Il y a encore beaucoup de, voilà, il y a encore beaucoup de travail. Mais on va voir justement comment on peut s'y prendre. Donc, tout d'abord, c'est très important de comprendre le protocole de Bitcoin si on veut comprendre ce que c'est qu'une blockchain. Donc, on va justement approfondir depuis les origines. Et la première des origines, c'est la cryptographie. Donc, je vous amène avec moi dans un petit voyage historique depuis l'Antiquité, où la cryptographie est une discipline militaire. La première preuve de message chiffré qu'on a retrouvée, c'est 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est la recette d'une poterie dans laquelle on a supprimé les voyelles pour protéger le secret de la recette, le secret industriel de la recette de poterie. Et puis, on a aussi Jules César avec le Code César qui remplaçait en fait de trois rangs dans l'alphabet, la lettre qui composait le message afin d'offusquer le sens du message pour que si la missive était interceptée par l'ennemi, on ne puisse pas mettre à jour sa stratégie militaire. Donc, on voit l'intérêt de chiffrer un message, de créer un code. Et puis, cette discipline, elle est devenue une véritable science après la Seconde Guerre mondiale. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a mis à mal la cryptographie, on a trouvé sa limite. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a deux méthodes qui se sont affrontées. On a le code linguistique qui s'est basé sur la langue des Navajos. Les Américains utilisaient les Navajos qui avaient une langue que personne ne connaissait, donc on les mettait au poste de communication pour pouvoir échanger. Et puis, on avait la méthode hyper complexe des Allemands, la machine Enigma. Je vous invite à voir le film Imitation Game qui retrace les travaux d'Alan Turing qui a percé à jour la machine Enigma. Elle chiffre de façon électromécanique chaque lettre du message. Donc, c'est ça qui est très complexe, c'est que chaque lettre du message a un code différent. Et Alan Turing, en perçant à jour le secret d'Enigma, a pu permettre des avancées phares, notamment la cryptographie asymétrique, où on a compris qu'il était essentiel de chiffrer le message, mais aussi de s'assurer que seul le destinataire de ce même message puisse le lire. Et c'est comme ça qu'on a créé l'asymétrie avec le système qu'on connaît hein, de clé publique, clé privée. La clé publique dans le système des crypto-monnaies agissant un petit peu, c'est une adresse comme votre IBAN de compte bancaire sur lequel on va vous envoyer les messages. Et la clé privée constituant le mot de passe, entre guillemets, hein, qui va permettre de décoder, déchiffrer la transaction pour pouvoir y accéder au message. Et c'est comme ça, en fait, c'est cette pierre angulaire, la cryptographie asymétrique, qui a permis de créer justement Bitcoin, qui est arrivé non pas à cause de la crise des subprimes, mais dans ce contexte-là. Effectivement, il faut savoir que ça fait depuis les années 70 qu'on cherche à créer le cash digital pair à pair pour pouvoir accélérer les transactions numériques sans passer par un tiers de confiance qui ajoute beaucoup de délais et qui ajoute des coûts en fait dans ces opérations-là. Mais Satoshi Nakamoto, c'est lui qui a réussi à résoudre le problème majeur de la double dépense, parce que c'est vrai que, on l'expliquera tout à l'heure, mais Internet, l'idée, c'est de multiplier l'information. Mais si cette information, elle a une valeur, eh ben, il faut pouvoir la rendre unique et donc d'éviter qu'on puisse la dépenser deux fois. Et donc, c'est Satoshi Nakamoto qui permet de résoudre ce problème avec une volonté majeure, en fait, c'est de protéger l'individu, l'utilisateur, grâce à la cryptographie pour redonner ce qu'on appelle de la privacy aux utilisateurs. Parce qu'en fait, dans le monde bancaire actuel qui est numérique, qui se digitalise, finalement, toutes les opérations sont surveillées. Et si on contrôle les dépenses et les flux monétaires de toutes les personnes, c'est comme si on contrôlait tous les aspects de leur vie. Et à ce moment-là, on rentre dans une surveillance totalitaire, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut éviter en amenant les crypto-monnaies. Donc, on va justement revenir sur cette notion de quand la data devient valeur, puisque la blockchain, c'est vraiment un registre de données. En fait, si on doit résumer quand même ce que c'est que la blockchain, c'est une base de données qui a ses propres règles. Mais justement, c'est pour ça qu'on verra les différences entre une blockchain et une base de données. Et on va commencer, voilà, par expliquer que vu que la donnée, elle devient valeur, on a vraiment un changement de paradigme sur Internet. Donc, je reprends un petit peu d'historique. Au début, Internet, le web 1.0, comme on peut l'appeler, ce n'est pas évident de se connecter à un serveur. Il faut être informaticien pour connaître les fonctionnements et appeler une page web. Mais ensuite, on a le navigateur qui fait effet killer app et qui permet à tout le monde, tous les utilisateurs sans connaissance, d'appeler des pages web et de consulter Internet. Ici, le but, c'est de propager l'information plus rapidement possible, partout, pour tout le monde, quitte à copier, transférer l'information comme dans un mail. Et ça, c'est vraiment l'innovation d'Internet. Ensuite, on a le Web 2.0, celui des réseaux sociaux qu'on connaît tous. Donc, c'est l'Internet des interactions, où là, l'utilisateur, il ne fait pas seulement que consulter, mais en fait, il produit aussi de la donnée. Et il devient un véritable acteur, hein, finalement, dans ce monde-là. Avec toutes les problématiques qu'on a justement, qui sont aujourd'hui encadrées par le RGPD. Et puis aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, les tokens, les jetons numériques, on entre dans l'Internet des valeurs. L'Internet des valeurs, en fait, c'est quand justement une information, elle ne peut pas être dépensée deux fois. Et pour ça, ça nécessite le protocole tel qu'il a été conçu chez Bitcoin. On va le comprendre pourquoi. On a aussi un exemple, par exemple, de navigateur comme Brave. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Brave, en fait, ça permet de sélectionner les données qu'on va publier ou pas, qu'on va laisser public pour pouvoir être ciblé par des publicités. Si on ne veut pas être ciblé par des publicités, pas de problème, on n'a qu'à le dire. Si on veut bien, eh bien finalement, on va avoir des publicités ciblées et pour lesquelles on va être rémunéré quand on va les regarder. Rémunéré en token, le token de Brave étant le BAT, le Basic Attention Token, ce qui fait un peu froid dans le dos. On a l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror où on va vraiment rétribuer le temps de cerveau disponible de l'utilisateur sur Internet. Mais ce faisant, on rétribue quand même la donnée de l'utilisateur qui devient un acteur économique et qui devient le vrai détenteur de sa donnée. Les crypto-monnaies, ça permet d'affirmer le principe de true ownership, donc le principe de propriété de sa donnée. C'est vraiment un débat en France, puisque dans la loi, pour le moment, on n'est pas propriétaire de nos données, bien que les entreprises puissent les exploiter à notre insu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en discussion au niveau légal. Enfin, c'est peut-être Mathieu qui pourra revenir là-dessus. Donc, voilà. Et en tout cas, grâce à ces systèmes-là, on est rentré dans l'Internet transactionnel, grâce notamment aux technologies blockchain. Et nous, on pense, dans la communauté des crypto-monnaies, on pense vraiment que Bitcoin, c'est une killer app, en fait, puisque c'est l'usage monétaire et que ça fonctionne. Les autres usages blockchain, pour le moment, sont des expériences, des essais, mais pour le moment, il y a très peu de choses avérées, très peu. On va le voir par la suite. Alors, bon. Dans le monde des crypto-monnaies, on a plein de crypto-monnaies, il y en a plus de 20 000 aujourd'hui. C'est un monde qui est fait de projets plus ou moins sérieux, il faut bien le dire. Juste pour vous donner une idée, déjà, Bitcoin, l'avantage, c'est que les transactions sont incensurables, contrairement, par exemple, au système SWIFT. Et on le voit très bien aujourd'hui dans le conflit russo-ukrainien. On a coupé quand même un certain nombre de Russes et peut-être même d'Ukrainiens le système SWIFT. Et donc, on a restreint les libertés individuelles de ces personnes-là. Et avec Bitcoin, ça, c'est impossible puisqu'on n'a pas d'organisation centrale qui décide et que le système est incensurable. Une des critiques majeures qu'on fait à Bitcoin, c'est d'être peu scalable. C'est que 8 transactions par seconde, si on veut créer une monnaie universelle internationale, finalement, il va falloir encore beaucoup de travail puisque un système comme Visa fait en moyenne 2400 transactions par seconde et peut monter jusqu'à 24 000, par exemple, en temps de Black Friday. Alors, on a d'autres crypto-monnaies qui sont arrivées avec la promesse d'aller plus vite, comme Ethereum qui veut augmenter la taille des blocs pour doubler le nombre de transactions par seconde. Mais en fait, on a ce qu'on appelle un trade-off. Donc, on sacrifie finalement une chose essentielle, c'est la décentralisation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en augmentant la taille des blocs pour pouvoir mettre plus de données, on augmente aussi le poids de la blockchain. Donc, comme on va le voir tout à l'heure, l'intérêt principal de Bitcoin, c'est la décentralisation. Et pour pouvoir être décentralisé, il faut que la blockchain puisse être synchronisable par un maximum de personnes. La blockchain Bitcoin, elle fait 250 gigas, 300 gigas à peu près. Celle d'Ethereum, elle s'est envolée. Il y a plus de 2 téra Octet. Donc, en fait, finalement, aucun utilisateur lambda ne va synchroniser cette blockchain, uniquement des acteurs professionnels et commerciaux qui vont détenir, dans ce cas-là, le pouvoir, le contrôle et la décision, ce qui va en faire un système centralisé, finalement. Alors, on a d'autres crypto-monnaies qui promettent de la dépense instantanée et privée comme Dash, mais qui sont totalement bannies par le régulateur qui y voit un moyen de blanchir l'argent et de financer le terrorisme. Contrairement à Bitcoin, qui est entièrement traçable, la blockchain, on peut l'auditer, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, la critique de la scalabilité, on y a répondu grâce au Lightning Network, qui a un réseau en surcouche, une layer 2 du réseau Bitcoin, qui va permettre des transactions instantanées. Bon, c'est un système que je vous invite peut-être à aller voir par ailleurs. On va avoir peu de temps à approfondir aujourd'hui. Mais c'est un système très intéressant qui permet de la transaction instantanée. Et tous ceux qui travaillent dans l'industrie bancaire devraient y jeter un œil puisque c'est vraiment un des futurs concurrents de Natixis, par exemple, sur le marché de la transaction. Alors, on revient un petit peu dans les explications techniques pour que vous puissiez bien comprendre l'intérêt. Alors voilà, vous avez un exemple de réseau pair à pair qui est décentralisé et distribué. Et en fait, vous pouvez voir la puissance du réseau Bitcoin ici, c'est-à-dire que vous avez tous les nœuds du réseau qui synchronisent la blockchain. Si on attaque un nœud, on fait tomber un nœud, tous les autres prennent le relais. Et c'est en ça que le réseau Bitcoin est très puissant, c'est-à-dire que c'est comme une tête de l'hydre, on coupe la tête d'un serpent, il y en a trois qui repoussent. Et en fait, c'est un réseau qu'on appelle antifragile, résilient à la censure. Il n'y a aucune autre crypto-monnaie qui a un réseau résilient à la censure tel que Bitcoin. Tous les autres sont attaquables et tous les autres sont fragiles. Donc Bitcoin, c'est finalement le premier, c'est aussi un objet numérique. C'est la première fois qu'on arrive à créer un objet numérique qu'on peut échanger de façon pair à pair, donc désintermédié, sans tiers de confiance, c'est aussi l'innovation, de façon pseudonyme pour protéger les données des utilisateurs, donc pour permettre d'avoir plus de privacy. Et aussi, un des éléments très importants sur la notion monétaire de Bitcoin, c'est qu'il est capé à 21 millions, il n'y aura pas un Bitcoin de plus, et ça crée un système déflationniste en opposition avec les systèmes monétaires qu'on a aujourd'hui. Donc, vous le voyez bien, pour répondre à la crise du Covid ou pour répondre aux problématiques énergétiques, on va injecter et mettre de la monnaie sur le marché qui n'aura pour effet qu'une hyperinflation finalement. Avec Bitcoin, on n'aura pas ce type de phénomène et on ne pourra pas changer finalement ce type de construction. Donc, à la découverte un petit peu du marché des crypto-monnaies, on va passer assez rapidement, c'est plus un peu pour la culture, j'ai bien compris que ce n'était pas forcément ça qui nous intéressait, c'était pour vous montrer les chiffres du jour sur CoinMarketCap, pour vous donner aussi notre information, CoinMarketCap, depuis 2018, il est dans le top 100 des sites les plus consultés, hein. Donc comme quoi, il y a vraiment un intérêt, on voit que Bitcoin, c'est la monnaie la plus importante, 40% de domination du marché, avec un market cap à plusieurs milliards de dollars, voire trillions, suivant les périodes, avec le top 5. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on va passer. Donc, Bitcoin, pour le moment, ce n'est pas une monnaie. Je dis ça parce que moi, j'aimerais que ce soit traité comme tel, mais c'est un actif. Hein, en Occident, c'est vraiment un actif financier. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 600 institutions financières et bancaires qui tradent du Bitcoin dans le monde pour de la spéculation, de l'arbitrage, des investissements ou de la diversification de portefeuilles, qui sont quand même principalement régulées en Occident, hein, par la Fed, par la SEC, par l'AMF en France, avec ce décret PSAN. Et puis, quand même, des choses qui peuvent changer pour permettre de peut-être un jour voir Bitcoin comme une monnaie en France, alors peut-être pas tout de suite, mais un jour, c'est El Salvador et le Centrafrique qui acceptent Bitcoin comme une monnaie ayant un cours légal, enfin, comme monnaie légale, ce qui va classer Bitcoin comme une devise étrangère et donc comme une monnaie. Mais bon, finalement, aujourd'hui, pour le moment, le régulateur n'a pas du tout statué dans ce sens. Et on va déchiffrer un petit peu tout ça. Alors, blockchain, c'est un système de cash électronique pair à pair. La pierre angulaire, c'est la crypto asymétrique pour protéger ses fonds. Qui s'appuie notamment aussi sur la signature électronique et l'eurodatage. Chaque transaction est authentifiée et eurodatée, donc on ne peut pas faire une même transaction deux fois. Et c'est bien comme ça qu'on a réglé le problème de double dépense. Et puis, il faut savoir que le système de blockchain, ce n'est pas Satoshi Nakamoto qui l'a inventé. En fait, c'est Walter Scott Stornetta qui avait créé un système de chaînage des preuves archées, enfin, de ce qu'on appelle des haches, donc des empreintes documentaires qui étaient chaînées et signées. Et donc là, on a le fossile de la blockchain. Mais en fait, en soi, juste ce chaînage-là ne suffit pas. Hein, il faut bien aussi avoir un système, un consensus décisionnel et puis un réseau pour partager et distribuer le registre. Mais donc on voit que depuis les années 80, on a cette technologie à portée de main. Donc si on n'a pas fait grand-chose, c'est parce qu'en fait on ne pouvait pas non plus en faire grand-chose. Hein, c'est qu'il n'y avait pas 36 000 utilisations. Alors, une fois qu'on a ajouté la partie consensus là, qui a été créée, donc la proof of work hein, dans Bitcoin, créée en 1990 par Adam Back, c'est en fait le consensus, c'est la façon de décider, de valider les transactions. Qui va valider les transactions dans le système? Eh bien, ce sont des mineurs qui vont ajouter les blocs à la blockchain Bitcoin en échange, si vous voulez, ils vont apporter du courant au réseau pour faire du calcul en brute force et ça va permettre de tirer au sort le mineur. Je vous expliquerai un petit peu plus. En gros, ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que la proof of work, c'est le consensus décisionnel qui permet de valider les transactions et qui va permettre de supprimer le tiers de confiance. On va décider de plus faire confiance à une personne, mais de faire confiance à, enfin, d'attribuer la confiance à un consensus mathématique. Voilà. Qui ne peut pas nous flouer, qui ne peut pas nous tromper. Ensuite, on a le smart contract. Donc, le smart contract qui est utilisé dans bien des applications blockchain. Souvent, on dit que c'est Ethereum qui a inventé le smart contract. Non, pas du tout. Ça a été inventé en 1994 par Nick Szabo et ajouté au protocole par Satoshi Nakamoto dans Bitcoin. En fait, parce que le mineur a été désigné comme étant celui qui va valider le bloc, il va toucher en récompense un nombre de Bitcoin et c'est comme ça qu'on va émettre les Bitcoins. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider, tiens, aujourd'hui, on va émettre 20 000 Bitcoins. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une émission qui est programmée. Au début, il y avait 50 bitcoins par bloc. Donc, ça laisse rêveur aujourd'hui au cours du bitcoin qui est à 20 000 euros. Bon, à l'époque, c'était relatif aussi au coût de production qui était de pas grand-chose. Donc, le bitcoin ne valait pas non plus grand-chose. Et donc, 50 bitcoins, c'était pas tant que ça à l'époque. Et puis, tous les 4 ans, on divise par 2 cette récompense. Donc, on est passé à 25, 12,5. Et on est actuellement à 6,25 bitcoins par bloc. Donc, il y a un bloc toutes les 10 minutes et il y a un mineur toutes les 10 minutes qui gagne 6,25 bitcoins parce qu'il a miné, parce qu'il a apporté son effort énergétique pour sécuriser la blockchain Bitcoin. Et bien évidemment, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'appuie aussi sur le réseau pair-à-pair. Et ça, c'est vraiment aussi l'innovation de Bitcoin, c'est de s'appuyer sur ce réseau pair-à-pair. S'il n'y a pas de réseau de pair-à-pair, il n'y a pas d'intérêt à utiliser une blockchain, autant utiliser une base de données centralisée qui est moins coûteuse, moins fastidieuse et qui est mieux comprise des équipes tech aussi. Donc voilà, et donc c'est toutes ces technologies ensemble, ce bouquet de technologies qui a permis de créer Bitcoin. Vous voyez, c'est quand même très complexe. Et justement, c'est assez complexe, donc j'essaye d'apporter des images hein, pour bien comprendre. Donc voici finalement une blockchain, comme je vous disais, on peut résumer à une base de données nouvelle génération, mais qui doit être distribuée et qui doit être sécurisée grâce à un consensus, et notamment la proof of work, si on veut que ce soit véritablement décentralisé. Et c'est pour résoudre les problèmes d'insécurité liés à la double dépense ou liés à la prise de contrôle du système. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'en fait, dans une blockchain, on a des hash, des données, des informations. Et donc, en fait, les hash ne sont pas des documents, ce sont des empreintes de documents. Je dis ça volontairement parce que quand on va parler des cas d'usage, notamment de traçabilité alimentaire, avec l'expérience de Carrefour qui voulait faire la traçabilité de sa chaîne des poulets d'Auvergne, ce ne sont pas des poulets qu'on enregistre dans la blockchain. Donc, en fait, il y a des corrélations bien souvent entre le monde réel et le monde virtuel. C'est pour ça que, par exemple, l'usage de la traçabilité pose de nombreux problèmes. Parce qu'en fait, oui, je peux mettre des informations dans une blockchain et les informations, on ne va pas pouvoir les effacer, elles seront sécurisées puisque le système est immuable. Mais en fait, qui me dit que cette information, elle n'est pas fausse? Est-ce que l'éleveur n'a pas nourri finalement avec des protéines peu recommandables plutôt qu'avec du grain bio? On ne sait pas. Donc en fait, finalement, on peut très bien mettre de vraies fausses informations dans la blockchain. C'est tout le problème de décorrélation. Donc voilà, un petit peu pour résumer, donc, la base de données qui est distribuée sur le réseau pair-à-pair, hein, qui en fait un système résilient, grâce à la proof of work. On va passer parce que j'ai bien étayé le sujet. Juste pour vous montrer que la blockchain, elle est ouverte, accessible à tous, c'est que tout le monde peut aller sur Internet, vous tapez Explorer Blockchain, ou là, celui-ci, c'est le mien que j'ai créé, explorerbitcoinlion.fr, et vous pouvez voir, en fait, toutes les informations de la blockchain, donc les transactions avec les hash, les adresses des clés publiques de l'émetteur et du destinataire, les montants, on peut même retrouver quel mineur a gagné la récompense de ce bloc-là, combien de frais en plus il a gagné en plus de la récompense, tout est public et auditable. C'est pour ça que la première critique qu'on avait voilà, dans les années, on va dire 2016-2018, attention, Bitcoin, c'est la monnaie du Darknet, elles sont un peu infondées parce que si on utilise Bitcoin pour faire des bêtises, on va être retrouvé, hein, on peut auditer la blockchain. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un système qui est très intéressant à mon sens. Parce qu'en fait, grâce au pseudonymat, parce qu'en fait, ce n'est pas mon nom-prénom qui est enregistré dans la blockchain, c'est mon adresse publique, qui est une chaîne de caractères de 32 caractères hexadécimaux, qui est un pseudonyme. Et donc, forcément, si je veux savoir qui se cache derrière cette adresse, j'ai un peu d'ingénierie à réaliser, hein, une petite enquête pour voir quand est-ce qu'elle a été publiée, par qui, à qui elle appartient, mais ça se retrouve. Donc, ça va permettre de protéger, on va dire, la masse des personnes qui utilisent Bitcoin pour leurs transactions de tous les jours. Mais par contre, si quelqu'un fait un méfait, on va pouvoir mettre les moyens pour pouvoir le retrouver. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour revenir un petit peu sur la Proof of Work, qui est le modèle de consensus, et j'y tiens par rapport à la sécurisation des transactions. En fait, comment ça marche la Proof of Work? C'est un système de tirage au sort pour décentraliser la décision et la validation des transactions. Donc, en fait, imaginez, c'est comme si aujourd'hui je vous donnais à tous un petit cadenas, un petit locker comme sur l'écran, et je vous disais, le premier qui trouve le code et qui ouvre le cadenas, c'est lui qui gagne la récompense. Donc, forcément, vous allez tous essayer plein de combinaisons différentes. Ce faisant, vous allez faire du calcul brute force. Et le premier qui trouve va ouvrir le cadenas. Donc, tous les autres vont dire, ah mince, finalement. Et puis, en fait, il y en a un qui va dire, oui, je sais, c'est 7, 5, 6, 3. Tout le monde va vérifier 7, 6, 5, 6, 3. Ça ouvre bien le cadenas. OK, c'est bon. C'est lui qui gagne la récompense. C'est lui qui a le droit d'ajouter le bloc à la blockchain. Et c'est comme ça qu'on va décentraliser la validation, qui ne va pas reposer toujours sur la même personne qui va s'enrichir. Parce que si c'était toujours la même personne, c'est toujours la même personne qui s'enrichit. Donc ça reconcentre le pouvoir. Et puis c'est toujours la même personne qui décide et qui pourrait décider à bien ou à mal de censurer des transactions. Donc là, justement, on n'a pas cette incentive-là. Donc vraiment, on s'appuie sur un consensus mathématique pour valider et décentraliser la validation des transactions. Les cinq piliers de la blockchain maintenant, pareil, si on va voir différents modèles de blockchain, mais une vraie blockchain, qu'est-ce que c'est? Une vraie blockchain, c'est celle de Bitcoin par exemple, et elle est open, donc elle est ouverte à tous, elle est borderless, donc la blockchain française ou la blockchain européenne, ça n'a aucun sens. Si vous commencez à lire ce genre d'informations, fuyez. On ne parle pas de blockchain dans ces cas-là, c'est vraiment borderless international. Elle doit être neutre, sans aucune considération politique, ni de religion, ni de couleur, ni de sexe, ni de tout ce que vous voulez. C'est neutre. Et c'est censorship resistant, c'est-à-dire que toutes les transactions vont passer. Il n'y a personne qui va vous empêcher. On regagne sa liberté. Et donc, c'est public, comme je vous le disais. Toutes les informations sont publiques et ouvertes à tous. Alors, différents types de blockchain, vous l'avez bien compris. On a la publique, celle de Bitcoin, qui est la véritable blockchain. Et puis derrière, on a des blockchains dites de consortium. Donc ça, c'est des blockchains en fait, qui sont permissionnées à plusieurs acteurs d'un même secteur d'activité ou d'un même système, ce qui peut être intéressant. Et on va trouver des exemples. Plus tard, je vais vous présenter des exemples, notamment chez Maersk, où voilà, on va mettre plusieurs entreprises autour de la table. Mais pour que cela marche, pour que cela fonctionne, il faut que les entreprises partagent des intérêts et soient d'accord pour la transmission et le partage des informations. Et il faut que chaque entreprise participe au réseau en faisant tourner un nœud du réseau. Donc voilà, ça peut avoir un intérêt parfois. Bon, après, la blockchain privée en son sein, finalement, ça va être très limité. Autant utiliser une base de données classique, MySQL, qui a quand même beaucoup de fonctionnalités et qui a beaucoup moins de coûts. Parce qu'une blockchain, ça prend, quoi qu'il arrive, un coût de temps. Il y a un temps de bloc. Un coût énergétique. Alors, il y en a qui me diront, bah non, c'est pas un coût énergétique si on n'utilise pas la proof of work. Oui, bon, bah quand même, dupliquer les bases de données, ça a quand même un coût énergétique à la fin parce que ça prend de l'hébergement. Ça a un coût aussi en termes d'efforts, parce qu'il va falloir former les nouvelles équipes. Donc, si ça, ce n'est pas essentiel, finalement, autant s'en passer. Donc, la décentralisation, c'est la clé pour savoir si on a besoin d'une blockchain ou pas. Non, mais c'est très bien. Et donc là, on va passer un petit peu justement au cas d'usage. Donc, je rappelle quand même que le cas d'usage principal, c'est la crypto-monnaie, les échanges liés à la logique transactionnelle. Après, voilà, les smart contracts, on va revenir dessus. Une des blockchains privées qu'on a pu voir qui s'appuyait sur le système. Non, celle-ci avait été développée en interne. Donc, c'était FX Everywhere de HSBC. Alors, pareil, on a eu quelques articles qui nous donnaient le résultat. 3 millions de transactions, 150 000 paiements par jour, plus de 250 milliards de dollars échangés en transactions haute fréquence interfiliales au sein d'HSBC. Mais bon, on n'a pas finalement de retour d'expérience sur la continuité de ce système-là. Alors, est-ce qu'ils l'utilisent encore ou est-ce qu'ils ont leur propre base de données? Mais en fait, c'est interne quand même à HSBC, c'est une blockchain privée. Donc, ils ont dû faire, à mon avis, un ménage sur les fonctionnalités dont ils avaient besoin. Et je pense qu'à la fin, si on audite le système aujourd'hui, ça ne ressemble pas du tout à une blockchain. Alors, on a d'autres cas. Alors, voilà, Betoisi, c'était le consortium des assureurs qui voulait, suite à la loi Hamon, pouvoir s'échanger les documents beaucoup plus facilement. Et au lieu d'uniformiser le système d'information qui allait coûter très très cher, ils se sont questionnés sur l'opportunité de mettre une blockchain entre eux et juste de développer des API pour s'interconnecter à la blockchain. Alors il y a eu beaucoup d'expériences apparemment qui étaient concluantes sur le début. Pareil, ici, on a des levées de fonds de 16 milliards d'euros. On a eu des choses qui ont été réalisées, mais en fait, à travers une blockchain, comme je vous le disais, on échange des empreintes de documents. Donc finalement, on ne va pas se transmettre directement le dossier de l'assuré. Donc ça faisait dupliquer des couches d'informations et ce n'était pas forcément efficient à la fin. LVMH qui authentifie ses produits de luxe. Alors là, il y a eu beaucoup de tentatives, hein, parce qu'il y a eu des premiers systèmes avec Consensus, puis avec donc Consensys, pardon, qui est une entreprise liée à la fondation Ethereum. Et puis, on a eu aussi Microsoft qui s'est lancé avec sa blockchain Aura. Mais pareil, encore ici, on a un système qui est privé, dont en fait, c'est LVMH qui va posséder finalement la légitimité d'authentifier ses produits, mais qui ne va pas contrôler le marché de seconde main et ce qui se passe après. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la cohérence entre le monde réel et le monde virtuel. Finalement, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe dans le monde réel. Donc, c'est très compliqué. L'Assasem qui avait un projet avec IBM qui a été abandonné parce que aussi c'est très compliqué. Il faudrait réussir à mettre vraiment tous les acteurs de l'industrie musicale dans un même système. Donc en fait, mettre tout le monde d'accord, c'est toujours impossible. Et c'est ça la difficulté. Donc l'idée, c'était de dire à chaque minute d'écoute d'un artiste, on va lui rétribuer tout de suite ses droits d'auteur de façon automatique grâce à des smart contracts. Alors il y a plein d'artistes qui vous diraient que c'est une glorieuse idée, mais finalement, à mettre en pratique, très compliqué. Donc voilà, la traçabilité alimentaire, on en a parlé, c'est vraiment un vrai problème. Et pourtant, si vous regardez de tous les cas que j'ai cités là jusque-là, il y a un vrai besoin marché. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tant sur le besoin marché qu'on a un problème, c'est si la technologie blockchain est adaptée pour répondre à ce besoin. Des cas d'usage, enfin des usages, on en a plein, mais la blockchain, finalement, elle ne fonctionne pas et ce n'est pas efficient, ce n'est pas pratique finalement à mettre en place pour répondre à ces problèmes marchés. Mais c'est vrai qu'il y a une attente de transparence hein, vis-à-vis des circuits alimentaires pour le consommateur. Maersk aussi, alors ça c'est un projet qui a du sens quand même si c'est permissionné, parce que en fait on va mettre plusieurs acteurs d'un même domaine. Là c'est pour essayer de suivre, de tracer finalement le conteneur du port de départ jusqu'au port d'arrivée. En disant, on va réduire aussi toutes les procédures douanières, puisque en fait, on va appliquer l'incoterm douanier à la bonne frontière de façon automatique grâce au smart contract. Donc là encore, on se dit, bah ouais, il y a un super usage. Voilà, donc là, pour le coup, les acteurs du transport ont réussi à se mettre d'accord. Maersk qui s'appuie sur la blockchain IBM qui est une blockchain permissionnée. Après, on se dit, bon, est-ce que ces informations-là, on a vraiment intérêt à ce qu'elles soient publiques? Est-ce que le transport du container, ça intéresse vraiment des utilisateurs? Et puis finalement, si, parce qu'il y a les utilisateurs qui aiment bien quand même savoir où sont leurs marchandises, donc ça pourrait être quand même un élément à communiquer, mais là, il faudrait une utilisation, une expérience utilisateur quand même beaucoup plus poussée que ce que je vous ai montré tout à l'heure, le Blockchain Explorer, quand même très complexe. Et puis en plus, il y a quand même aussi des implications diplomatiques, géopolitiques dans l'économie internationale. Mais quand on voit le problème du canal de Suez qui s'est passé finalement récemment, on se dit qu'il y a un intérêt. Encore une fois, là, au niveau marché, il y a un intérêt. Et le fait d'essayer, c'est juste un pas de plus vers la solution finale qui serait adaptée. Alors là aussi, on a un super produit. C'était Flitzy de AXA qui voulait automatiser le remboursement des billets d'avion quand on a un retard de plus de 2 heures. Parce qu'actuellement, sans ce système-là, il faut que le client appelle la compagnie d'assurance. On va sûrement le renvoyer vers l'aéroport pour avoir la preuve du retard ou vers la compagnie aérienne. C'est très complexe et en fait, la plupart des clients ne demandent pas le remboursement dans ces cas-là. Et donc, pour améliorer son service client, AXA a cette idée de smart contract qui va rembourser automatiquement. Et en fait, c'est une super idée parce que finalement, même si on va rembourser les clients, on va avoir une bonne image parce qu'on rend le service qu'on a promis. Et ensuite, on va désengorger quand même les opérateurs qui vont pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et vu le coût de la ressource humaine, ce n'est pas inintéressant. Cette opération, elle a été arrêtée et pendant très longtemps, je n'ai pas su pourquoi, mais j'ai rencontré récemment justement la personne qui était en charge de ce projet et qui m'a dit en fait, c'est un problème de commercialisation parce qu'en fait, on a eu du mal à trouver les mots pour trouver des clients et puis ensuite en interne, des problèmes politiques, on va dire, des problèmes d'incompréhension du produit aussi, qui ont fait que l'expérience a été arrêtée et l'équipe blockchain placardisée. Donc voilà, pourtant, ça avait quand même un très gros potentiel. Voilà, des entreprises qui innovent, il y en a beaucoup, que ce soit pour la traçabilité même des matières premières comme Ford ou BMW, qui ont des gros problèmes de déperdition des minerais depuis l'Afrique jusqu'en Europe, qui ont du mal à, voilà, qui perdent un certain nombre de ressources. Il y a aussi des projets beaucoup plus marketing comme Havas qui s'était lancé, donc qui a été doublé par une start-up qui s'appelle Chili's, qui est un token dans le milieu du football. Justement, c'est un token de fidélisation pour les supporters. On a créé un jeu un peu à la Pokémon Go où on amène les gens dans certains, soit dans des stades ou dans des commerces partenaires pour attraper des tokens. Et ces tokens donnent droit à des réductions, à des cadeaux, à ce genre de choses. Donc, on a vraiment une gamification du parcours du supporter grâce à ce type d'outils. Et puis, il faut dire aussi que les banques, elles se lancent sur le sujet aussi. Donc, ont été doublées aussi par une banque assez indépendante, la banque de Lubac, qui lance le 28 septembre son offre auprès des particuliers et des professionnels d'achat-vente de crypto-monnaies sur un certain portefeuille de crypto-monnaies. On a aussi EDF qui avait fait une expérience, mais pareil, pour des questions politiques, l'expérience a été rangée au fond d'un tiroir. C'était finalement d'indexer un token type Solarcoin, en fait, le token indexé au kilowattheure produit par les panneaux solaires et qui permettrait aux producteurs d'énergie solaire de revendre leur électricité à leurs voisins ou de les remettre sur le réseau. Bon, en fait, actuellement, ça se passe déjà par le réseau EDF qui rachète lui-même et qui redistribue lui-même. Donc, EDF n'avait aucun intérêt à avoir ce type de projet véritablement émerger au risque de perdre un petit peu ce marché aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une volonté de garder le contrôle, de ne pas décentraliser. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que ces projets, il y a des grosses questions politiques dans l'échec de ces projets. Alors, quand on utilise une blockchain, voilà, je répète un petit peu, mais il faut toujours se poser la question sur est-ce que c'est vraiment pertinent? Oui, j'ai un problème marché, mais est-ce que la blockchain, c'est la bonne solution? Parce que finalement, il y a beaucoup d'autres solutions qui sont plus efficientes qu'une blockchain. Je rappelle qu'une blockchain, c'est un temps de bloc, qu'en plus, c'est complexe, qu'il faut former les équipes. Et en fait, finalement, parfois, l'argument blockchain, un peu blockchain washing, ça va augmenter le cours en bourse de l'entreprise. Mais si c'est pour derrière dépenser de l'argent à mauvais escient, ce n'est pas forcément une bonne opération. Effectivement, sur la transmission d'informations, les mails, ça marche très bien, ça va très vite, c'est instantané. Donc, il faut toujours poser la question, pourquoi je vais ralentir la transmission d'informations? S'il a ralenti, c'est parce que j'ai un besoin de décentralisation ou un besoin de sécurisation. Et donc, dans ce cas-là, je peux me poser la question, mais faut-il encore qu'il y ait un intérêt à décentraliser l'information et que ça puisse toucher l'utilisateur? Il va falloir réfléchir à l'expérience utilisateur, parce que c'est pareil, c'est comme l'IA. Je veux dire, en fait, les consommateurs n'achètent pas d'IA. Les consommateurs, ils achètent des services qui leur sont utiles. Ils s'en fichent s'il y a de l'IA ou pas derrière. Donc, en fait, nous, en entreprise, on est là, on est content, on s'auto, voilà, congratule d'utiliser des super technos. Mais si ça ne sert pas aux consommateurs derrière, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, c'est pareil, vouloir dire mettre de la blockchain pour faire bien, voilà, ça aura sa limite. On va perdre de l'argent à court terme et ça nous empêche d'être visionnaires. Être visionnaire, c'est penser à une blockchain avec une transmission d'informations décentralisée et qui touche à la logique transactionnelle, puisque c'est ça le véritable usage du blockchain. Donc, sur la route de l'innovation, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, ce type de technologies, elles sont quand même très peu matures. On n'en est qu'au début. La première blockchain, Bitcoin, elle a 13 ans aujourd'hui. Donc, même si le but de ce schéma, c'est de vous montrer que plus on avance en progrès technique, plus les innovations sont rapides à être adoptées. Effectivement, pour adopter la radio, la télé, il faut que d'abord que l'électricité soit répandue, soit adoptée massivement dans tous les foyers. Bon, et ben, c'est pareil, pour adopter les crypto-monnaies, il faut quand même que le smartphone soit adopté massivement, d'où aussi le fait que l'adoption du Bitcoin, par exemple, à El Salvador ou Centrafrique, disons qu'ils vont avoir du temps parce que leur population, elle n'est pas encore massivement sur Internet, n'a pas en pleine possession les outils numériques. Donc forcément, c'est très complexe et ça crée des fractures hein, dans le pays. Et nous aussi, en France, on a une fracture numérique qu'il faut appréhender. Donc voilà, alors, ce n'est pas parce que c'est mature et qu'on en est qu'au début qu'il ne faut pas s'y intéresser. Il faut avoir une vision avec ça parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Vous avez vu, il y a des pays qui l'acceptent en monnaie. Il y a des institutions qui se lancent sur le marché. Il y a beaucoup de projets. C'est quand même un marché qui est florissant. Et aujourd'hui, on a un vrai besoin d'avoir des systèmes d'information décentralisés et non censurables quand on voit dans le monde dans lequel on se trouve. Voilà, merci à vous.